La Bible, parfum de scandale. Une émission produite par Radio FM+ et présentée par Babette Soulier-Laporte et Ingrid Pratt.
Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio FM+. Nous voilà de retour pour une nouvelle émission de La Bible, un parfum de scandale, point d'interrogation. Et ben, notre dernier brainstorming, notre dernière réunion a donné lieu à une série de questions, dont celle-ci donc, que nous traitons aujourd'hui, qui s'appelle « La Bible dit-elle vrai ?»
On n'est pas sortis de l'auberge.
Bonjour Ingrid.
Bonjour tout le monde.
C'est Ingrid qui doit répondre à ces questions. Effectivement, ma position est plus agréable que la sienne. Voilà. Donc la Bible, globalement, de quoi parle-t-on quand on parle de la Bible? C'est ce dont on parle, nous, depuis un certain temps maintenant dans ces émissions. Donc, entre Donald Trump qui a publié la Bible de Trump, hein, avec, qui s'appelle « God Bless America », bien sûr, avec des textes tronqués, apparemment, et Einstein qui dit que la Bible est un recueil de légendes vénérables mais encore assez primitives, pour finir par les églises pour qui la Bible est la vérité absolue. Voilà, où nous situons-nous, nous les protestants, sur la Bible, ce qu'est la Bible, ce qu'elle véhicule et quelle vérité voilà, on peut lui accorder. Donc, tu le diras peut-être, mais elle a été écrite donc, pour l'Ancien Testament entre le 8e et le 2e siècle avant Jésus-Christ et pour le Nouveau Testament entre 50 et 110, je crois, à peu près.
Hein,
voilà.
Ouais.
Donc, il a été écrit évidemment en grec et à Alexandrie et la Septante, bien sûr, le 3e et 2e siècle.
En latin,
la Vulgate de Saint Jérôme, que nous ne cautionnons pas vraiment, on va dire. Un certain nombre de contresens, je ne sais pas s'ils sont volontaires ou pas, mais bon, voilà, nous ne nous fournirons pas du tout sur ce texte-là. Donc, pour répondre à cette question, Ingrid a choisi un texte qui est dans Timothée. Donc, c'est 2 Timothée 3, 14, 17. Alors, Timothée, c'est celui qui honore Dieu, en grec. C'est le compagnon de voyage et le confident de Paul, qui lui écrit 2 lettres pastorales et qui l'institue premier évêque d'Éphèse. Donc, à un moment, il dresse un tableau vraiment horrible de tous les péchés humains. Mais il lui dit, toi, Timothée, toi, tu es bien équipé pour le service de Dieu. Donc, on s'est dit qu'on pouvait aller chercher dans Timothée des vérités.
De quoi il était équipé et voilà.
Je ne sais pas. Voilà. Donc, il a, dit Paul, le plus puissant des moyens pour soutenir sa foi et celle des autres, les Saintes Écritures. Et alors, est-ce que c'est vrai qu'à l'époque où Paul écrit, il ne s'agit que de l'Ancien Testament?
A priori, oui. Il n'y a rien d'autre.
Le Nouveau Testament n'était
pas... Puisque le Nouveau Testament n'est pas écrit.
Bien sûr. D'accord. Or, si on ne parle que de l'Ancien Testament, une partie, mais même du Nouveau Testament, est devenue assez inaudible en termes de vérité, voire de véracité, et je dirais même de vraisemblance, quelquefois. Donc, on s'est posé la question de savoir sur quoi on allait un peu se centrer, parce que la Bible dit-elle vrai par rapport à la vérité scientifique? Donc, on revient aux États-Unis, le créationnisme ou le Big Bang, en rapport avec l'histoire. Apparemment, les murailles de Jéricho n'ont jamais existé. Pourtant,
vraisemblablement pas.
Voilà. Donc, elles sont quand même très symboliquement importantes, on va dire. Et alors, Vatican II, moi, j'ai vu qu'il avait admis que la Bible n'était pas exempte d'erreurs en matière de science et d'histoire. En revanche, la vérité est absolue dans le domaine de la foi et de la morale. C'est peut-être là que nous, on pourra se positionner. Voilà. Donc, rapport avec la vérité scientifique et historique, où est-ce que... Dire que la Bible dit vrai, ce serait l'idée que Dieu s'adresse directement aux hommes par tous les mots de ce livre. Voilà.
Question.
Je crois que c'est la question la plus importante. Et est-ce que, donc, troisième aspect de cette vérité biblique, c'est est-ce que la Bible est à l'origine de toutes les prescriptions morales qui doivent être respectées à la lettre et en tout temps, y compris pour nous maintenant?
Vaste programme,
voilà. Ben, du coup, je vais te laisser lire le texte avant que tu veuilles...
Voilà, le texte qui est très court.
Pourquoi
ce texte? Peut-être pour un verset, vous allez voir. Quant à toi, demeure en ce que tu as appris, en ce dont tu as acquis la conviction. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ta plus tendre enfance, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit à la hauteur, parfaitement équipé pour toute œuvre bonne.
Voilà, il a son sac à dos bien,
c'est ça.
Bien complet.
Bien rempli.
Voilà. Alors, on a beaucoup de questions, j'espère qu'on arrivera à les traiter toutes. Donc, commençons par le début du texte. Tu sais de qui tu l'as appris. En fait, la façon dont on est confronté aux Écritures, comment, voilà, nous les protestants, on n'est pas tellement pour l'intermédiation, on va dire, bien que nous ait... je suis là en train d'interroger une pasteure, hein, voilà, donc bien entendu, on a quand même besoin d'avoir quelqu'un qui, ben, justement, s'est formé à cette lecture. Donc, est-ce qu'on peut lire la Bible seule? Est-ce que c'est un livre scellé, comme pour certains catholiques? Donc, il faut une espèce d'herméneutique avant d'atteindre le sens, voilà. Et donc... voilà. Enfin, peut-on lire la Bible seule et quelle vérité nous dit-elle si on la lit seule?
Oui. Alors. toute écriture est inspirée de Dieu.
Oui.
En grec, c'est théopneustos. Voilà. Donc, on l'a dit, hein. Paul ne parle pas encore du Nouveau Testament, mais des écrits juifs, donc l'Ancien Testament. Et cette affirmation, elle porte sur, une utilité spirituelle et morale, et surtout pas sur une exactitude scientifique ou historique.
Voilà.
Ça, c'est peut-être le premier point peut-être sur lequel il faut insister. Et Paul, quand il écrit à Timothée, il insiste moins sur le texte seul que sur la transmission. Tu sais de qui tu l'as appris. Ça veut dire que finalement, les Écritures, elles ne tombent pas du ciel. Et surtout, elles ne tombent pas du ciel sans interprète.
Voilà.
Parce que la foi biblique, elle est toujours transmise par une communauté, par une tradition, par des témoins. Et est-ce qu'on peut recevoir ça tout seul, je pense que non. En fait.
Parce qu'on est Moïse.
Ouais, Sinaï, mais parce qu'on est baigné aussi par, on est dans une culture, on est façonné par plein de choses, et quand le texte arrive là, il parle dans un contexte chaque fois. Alors, dans l'histoire et même encore aujourd'hui, on a trois positions chrétiennes un peu classiques. Catholique, qui dit que la Bible nécessite une herméneutique autorisée, c'est-à-dire par l'Église, par la tradition, et sans ça, elle peut être mal comprise ou instrumentalisée. Dans la version protestante, on a le sola scriptura, donc l'écriture seule, donc, qui dit que finalement la Bible, elle peut être lue par tous, et ça a été vraiment le combat de Luther. Mais je dirais presque jamais hors de la communauté, hors d'une formation, hors de l'esprit critique. Et ça, c'est assez fondamental. Et en parlant de fondamental, il y a la lecture fondamentaliste aussi, qui est une lecture littérale, immédiate, sans distance historique. Et c'est là qu'on voit souvent que surgissent les impasses. Mais même si on lit la Bible tout seul, on la lit déjà avec des présupposés.
Oui.
On n'est pas exempt de présupposés.
Surtout un livre comme ça. Tous les livres, je crois, dans celui-là en particulier.
Oui, et d'autant que peut-être qu'il faut le rappeler, la Bible, ce n'est pas un livre,
non.
C'est des livres.
Biblia.
Et c'est des auteurs. Et, c'est une bibliothèque, en fait.
Oui, sur plusieurs siècles.
Sur plusieurs siècles, sur plein de traditions. C'est assez énorme. Donc, il y a tout et son contraire dedans.
Donc, il y a des vérités.
Et oui, à chaque fois, dans un contexte particulier.
Ouais.
Et du coup, on ne peut pas. C'est pas un manuel, c'est pas des recettes, c'est pas un livre de recettes. Quoi. C'est pas un code moral figé qui est valable en tout temps à la lettre. Il y a des erreurs scientifiques, il y a des erreurs historiques, mais pour autant, la Bible ne perd jamais sa valeur spirituelle.
Voilà.
Et ça, c'est peut-être la clé, la clé du truc.
Tout à fait.
Que dire de plus?
Donc ça, c'est un bon
Voilà.
Qu'est-ce que c'est que les saintes écritures, justement? Moi, c'est sainte, parce que dans saintes écritures, il y a, pour moi, il y a non critiquable. Et jusqu'où peut aller une exégèse? Certains protestants de l'Église réformée vont jusqu'à un certain agnosticisme même. Donc, voilà. Enfin, on n'est pas les détenteurs de la vérité non plus.
Certainement pas.
Voilà.
Que veut dire ce terme de sainte?
Sainte, oui.
Qui perturbe. Pour moi, il ne signifie ni infaillible, ni intouchable, ni au-dessus de toute critique.
Voilà.
Saint, en hébreu, c'est kadosh, agios, en grec. Ça signifie d'abord mis à part.
Mis à part.
Orienté vers Dieu, consacré, je dirais, à une finalité.
D'accord. Ça ressemble au sens de sacré, alors, un peu.
Ouais.
Oui, d'accord.
Ouais. Les Écritures, en fait, elles sont dites saintes, non pas parce que chaque phrase, chaque mot qu'il y a dedans serait parfaite, mais parce qu'elles sont reconnues par une communauté croyante,
oui,
comme un lieu privilégié de la rencontre avec Dieu.
D'accord.
Donc, je dirais que la sainteté, elle porte pas sur la lettre, mais sur la fonction,
oui,
du texte.
Presque une fonction sacerdotale, presque, ou en tout cas, peut-être pas sacerdotale, mais ecclésiale.
Ecclésiale.
Voilà, oui.
Qui met en lumière...
Pour une assemblée.
Pour une assemblée, quelque chose.
D'accord. Alors, donc effectivement, là, il n'y a pas de risque d'endoctrinement si on le considère comme ça. Alors, ces saintes écritures, elles ont le pouvoir, tu as dit, de te communiquer, donc, dit-il à Timothée, la sagesse, alors ça m'a un peu perturbé, la sagesse qui conduit au salut par la foi qui est dans le Christ Jésus. Donc, la Bible a une espèce de pouvoir pour Paul, un peu magique, et la foi passe par la sagesse. C'est curieux, ça, parce que moi, il me semblait qu'on était dans deux registres différents. Est-ce que ça n'est pas antinomique?
Oui, la Bible a-t-elle un pouvoir? C'est de la magie?
Oui, oui,
c'est comme un vieux grimoire.
Oui, c'est ça, pour la brandir contre les hérétiques. Et les... Oui.
Alors, quand on va voir le grec par rapport à ce mot, oui, pouvoir... C'est le mot, c'est dynamis.
Ah, même chose déjà.
Qui renvoie pas du tout à un pouvoir magique, ni à une efficacité automatique. Ce qui signifie que la Bible ne va jamais agir comme un talisman. Elle n'opère rien sans lecture, sans intelligence, sans réception. Elle n'agit pas indépendamment du lecteur. Oui. On pourrait dire que son pouvoir, il est relationnel et performatif.
Oui.
C'est-à-dire qu'elle va ouvrir un horizon de sens, elle met en mouvement, elle déplace le regard sur soi, elle, oui, déplace le regard sur Dieu, et elle déplace le regard sur le monde.
Oui.
Donc, ce n'est pas un pouvoir
sur
l'homme. C'est
du pouvoir, presque, je trouve
ça.
Oui,
mais c'est un pouvoir, mais ce n'est pas un pouvoir sur l'homme.
Non.
C'est un pouvoir pour l'homme.
Et avec l'homme.
Il y a une finalité qui est derrière, qui est intéressante.
Oui, c'est sûr.
Et cette efficacité, elle vient de ce que dit le texte, ce que dit Paul. Hein, elle est par la foi qui est dans le Christ Jésus. Oui.
Et en passant par la sagesse, justement, parce que c'est une interaction entre le texte et le lecteur, c'est ça? Ça serait ça, la sagesse, ou c'est pas la raison, c'est...
Je dirais que c'est vrai qu'à première vue, la foi et la sagesse, ça semble complètement opposé.
Sagesse, pour moi, ça fait philosophie grecque, quoi.
Ouais.
Voilà.
Comme on dirait la foi, on pense plutôt à quelque chose de l'ordre de l'adhésion.
Oui, de la croyance.
De la croyance. Et la sagesse serait plutôt du côté du discernement critique.
Voilà.
Eh bien, pour moi... La chose fondamentale, c'est que dans la Bible, ces deux-là ne s'excluent pas. Au contraire, elles se fécondent. Ça fait des bébés.
D'accord. Voilà. Oui, ça, c'est une belle image. Ouais.
À la fois d'être dans l'adhésion et à la fois de ne pas renoncer à l'esprit critique. Surtout pas renoncer à l'esprit critique.
Oui. Ça, c'est très important.
Voilà.
Bon, on est à peu près à la moitié de l'émission. On va peut-être écouter une chanson pour que vous ayez le temps de méditer toutes ces idées qui sont assez fortes et assez emmêlées, d'ailleurs. Oh. Entremêlées, pas emmêlées, entremêlées, je dirais, pardon. On vous retrouve après.
Respect, c'est le parfum que l'on respire dans les lettres qu'on vient relire en ouvrant la malle au trésor, sous les mots qui nous grisent encore. Respect, c'est le ciment qui tient la pierre, invisible grain de poussière, mais qui tient la maison debout quand tout vacille autour de nous. Respect, c'est l'inconnu qui vous regarde et qui prie pour que Dieu vous garde comme un cœur qui battrait pour deux, un ami qui vous suit des yeux. Respect, c'est la voix de nos différences, nos peaux, nos races et nos croyances qui se réchauffe au même feu en regardant vers d'autres cieux. Respect, dans nos paroles et dans nos gestes, c'est l'ultime recours qui reste à celui qui a tout quitté pour cesser d'être un étranger. Respect, c'est la fin de l'indifférence, une écoute sur le silence, la lueur dans l'obscurité, le début de l'humanité. Respect, c'est la force qui nous inspire pour pouvoir résister au pire et faire face en restant debout plutôt que de vivre à genoux. Respect, celui des autres et de nous-mêmes, qu'on emporte avec ce qu'on aime au jour du dernier rendez-vous. Respect, c'est ce qui restera de nous. C'est ce qui restera de nous.
Merveilleux Yves Duteil dans cette chanson donc, qui s'appelle Respect, et tout l'album s'appelle Respect. Donc tu as déjà parlé de ce petit passage qui est donc « Toute écriture est inspirée de Dieu ». La question que nous posent toujours les contradicteurs, c'est « Mais alors si Dieu est amour, si tout est inspiré de Dieu, pourquoi y a-t-il un Dieu vengeur? Pourquoi y a-t-il un Dieu des armées assez souvent, et surtout dans l'Ancien Testament ?» Et tu l'as un peu effleuré. Déjà, quelle est la part de la parole humaine, en fait, de la rédaction de la parole qui serait divine? Moi, j'ai toujours aimé cette image des 72 rabbins qui, théoriquement, sont restés enfermés 72 jours dans la bibliothèque d'Alexandrie. Ouais. Est-ce qu'ils ont pu faire des contresens, des faux sens? Ils devaient avoir faim et soif, on devait les nourrir. Mais bon, voilà. Donc, à 72, c'est bien. Moi, je suis linguiste. C'est un beau gage de
communautaire.
De bonne traduction qui a été faite avec des. Voilà. Mais enfin, quand même, est-ce qu'il pourrait y avoir des faux sens?
Alors, on va reprendre les choses.
Oui.
C'est vrai que on nous pose souvent la question de la violence. Hein. Oui. Si Dieu est amour, pourquoi toutes ces pages sur la violence? Est-ce que Dieu voulait vraiment ces violences? Alors ça, c'est juste théologiquement intenable.
Oui.
si on lit tous les littéralement, bah, c'est moralement dangereux. Et dire que ce n'est pas vraiment inspiré, bah, finalement, ça va détruire complètement l'unité biblique.
Bien sûr.
La Bible ne montre pas des hommes qui deviennent saints. Elle montre des hommes qui parlent de Dieu depuis là où ils en sont et souvent depuis leur propre violence, depuis oui. leur peur, depuis leur désir de survie finalement. Et je ne crois pas que Dieu ne cautionne pas tout ce qui est écrit sur lui.
Voilà,
je ne crois pas. Les textes violents disent vrai, pour le coup, non pas sur Dieu, mais sur la violence humaine.
Oui.
La façon dont l'homme projette aussi ses propres violences sur Dieu. Et c'est affreux à dire, mais la Bible révèle aussi de fausses images de Dieu.
Oui.
Puisqu'elle part
des
hommes.
Bien sûr. Des projections.
C'est des projections. Oui, tout à fait. Mais c'est intéressant aussi de savoir d'où ça part, quoi.
Bien sûr.
Alors, les auteurs bibliques sont toujours situés historiquement, guerre, exil, domination. Ils sont marqués culturellement.
Bien sûr.
Patriarcat, la loi du talion, les cosmologies anciennes. Ils sont aussi limités moralement. Mmh. Vengeance, exclusion, la peur de l'étranger, mais ça, en même temps, c'est des choses qu'on retrouve encore aujourd'hui.
Complètement.
Et quelque part, finalement, on voit que l'inspiration n'abolit jamais l'humanité de l'auteur. Et Saint-Augustin le disait déjà, ce que je ne peux attribuer à Dieu, je l'attribue à l'homme.
Oui, c'est joli.
C'est dire que la Bible, elle ne parle pas d'une seule voix. On va y trouver à la fois un Dieu guerrier et un Dieu qui interdit la violence. On va y trouver un Dieu vengeur et un Dieu qui pardonne. On va y trouver la loi du talion et la loi sur l'amour des ennemis. Ce qui me fait dire que la révélation, qui est un tout, un grand tout, eh bien c'est un chemin.
Oui.
Et pas un bloc.
Tout à fait.
Voilà. Pour le chrétien, je dirais que le critère ultime n'est pas, c'est pas un verset isolé.
Non, bien sûr.
C'est un tout. Voilà. Et alors, sur les est-ce que ces 72 rabbins, est-ce qu'ils ont pu se tromper? Alors, déjà, qu'ils soient 72, c'est génial. Ça veut dire que la traduction est une œuvre collective.
Oui.
C'est pas venu juste d'un seul mec. Et que 72, c'est beaucoup. Et donc, elle est reçue comme légitime par une communauté entière. Et ça ne veut pas dire qu'elle serait miraculeusement parfaite.
Non.
Ils ont pu produire des contresens, des glissements théologiques, des interprétations orientées. Et c'est un fait. Hein, certaines différences entre hébreu et grec ont influencé la théologie chrétienne, parfois de manière féconde, parfois de manière problématique. La Bible n'est jamais donnée sans interprétation, et ce, dès l'origine.
Oui.
Toute traduction est une interprétation, quelle qu'elle soit. On parlait tout à l'heure de la Vulgate, c'est une interprétation. Quelle que soit la traduction, même encore aujourd'hui, c'est encore de l'interprétation. Alors, tu me diras, où est l'inspiration si tout est humain? Je crois que l'inspiration, elle est dans la fidélité de Dieu qui accompagne ce chemin, ce processus. Elle est dans le fait que, malgré la violence des textes, il y a quelque chose qui conduit vers plus de justice. L'inspiration, elle est aussi dans la tension interne qui empêche de figer Dieu dans une image unique. Quelque part, une Bible sans scandale serait une idéologie.
Tout à fait.
Une Bible scandaleuse oblige à penser, à discerner, à choisir.
Oui. C'est vrai.
Et donc, dire que l'écriture est inspirée, c'est pas dire qu'elle dit toujours le vrai sur Dieu, c'est dire que Dieu ne cesse d'y lutter presque contre nos faux dieux.
Je comprends.
La parole de Dieu ne supprime pas la parole humaine, elle la traverse, elle la corrige, elle la contredit, et parfois elle le mène plus loin. Encore.
La recherche de la transcendance, c'est vraiment un chemin plus qu'un. Je comprends.
Et donc, je parlerai plus de cheminement, de chemin de pensée.
Oui. Oui, donc tu as répondu un peu à ma prochaine question qui était sur la justice, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Hein. Bon, les textes, on les connaît tous, hein, mais ouais. C'est vrai que les textes sur tout ce qui est de l'ordre du patriarcat, effectivement, voilà, moi, j'ai retrouvé un texte qui me continue à me hérisser, qui est que les femmes se taisent, on le sait, dans les assemblées, on en a déjà parlé.
En plus.
Voilà. Oui, voilà, c'est toujours Paul qui est charmant. Effectivement, on trouve des choses du genre, c'est Adam, en effet, qui fut formé le premier, c'est pour ça qu'il faut que les femmes se taisent, et Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui fut séduit, mais c'est la femme qui, séduite, tomba dans la transgression. Cependant, elle sera sauvée par sa maternité, à condition de persévérer dans la foi, l'amour et la sainteté avec modestie. Donc, si une femme n'a jamais d'enfant et qu'elle n'est pas modeste, c'est un peu fichu pour elle.
Elle est morte.
Quoi. Voilà. Donc, d'accord, il y a une contextualisation nécessaire, comme tu l'as dit, et très bien souligné. Alors, les fondamentaux, qu'est-ce qui reste ? Il reste cette attention de Dieu pour l'homme, alors, justement.
Oui, je dirais ça. Et alors, tu vois, ce texte en particulier, je dirais que pris littéralement et hors contexte, il est profondément injuste.
Oui.
Il est théologiquement fragile et il est surtout moralement inacceptable.
Oui.
Moi, je ne peux pas.
Aujourd'hui, voilà.
Je n'y arrive pas. Oui. Et si on prend juste la place des femmes, la Bible même se contredit sur la place des femmes.
Je veux dire,
dans Galates, il n'y a plus ni homme ni femme. Il y a des femmes prophètes, des apôtres, des responsables d'église domestique qui sont des femmes. Jésus lui-même transgresse les normes religieuses et sociales quand il s'approche des femmes. C'est-à-dire, vraiment, la Bible ne parle pas d'une seule voix sur ce point. Il y a quand même des fondamentaux qui demeurent. Je dirais que si un texte biblique éduque dans la justice, ce n'est pas toujours en donnant un modèle à imiter, mais parfois en montrant jusqu'où la foi peut être déformée par une culture donnée. La fidélité à l'écriture ne consiste pas à répéter toujours ses limites, mais je dirais à poursuivre son mouvement vers plus de justice.
Oui, bien sûr.
Et c'est toujours à reprendre dans un contexte, dans un contexte qui est propre.
Bien sûr. D'où l'importance de l'exégèse.
Oui.
Voilà. Et de l'exégèse partagée. Oui. Comme tu. Et donc, ma dernière question, c'est qu'est-ce que c'est que cet homme de Dieu dont il parle tout à fait à la fin de ce passage, que la Bible sert finalement, et qu'elle dessine et qu'elle sert d'ailleurs. Quelle est la vision du bien qui ressort de la Bible et quelle est sa vérité ultime? Tu as juste
30 secondes.
Voilà.
Okay.
Non, alors, tu as 2 minutes.
Cet homme de Dieu, je dirais que c'est un être qui est en travail sur lui-même.
Oui.
Qui est formé par l'épreuve, qui est formé par la parole, qui est formé par la contradiction et qui avance. C'est quelqu'un qui est capable de discernement.
Oui.
C'est un homme de Dieu, ça peut être aussi une femme de Dieu, je précise. Oui. C'est un humain.
Un
être humain devant Dieu.
Voilà.
Quoi. C'est pas un être humain hors sol.
Non.
Mais c'est un être capable de discernement. Et peut-être que pour conclure, je dirais que la Bible ne forme pas des croyants qui sont sûrs d'eux, mais des hommes et des femmes assez enracinés pour faire le bien sans garantie, non plus, parce qu'on ne sait jamais. Et je dirais que la vérité ultime de la Bible n'est pas d'avoir réponse à tout, mais de rendre possible une vie juste, une vie aimante, une vie responsable, ici et maintenant.
Oui.
Voilà, c'est ici et maintenant.
Et maintenant qui compte.
Qui compte.
Voilà, autant au point de vue de la herméneutique que des conclusions. Voilà, bien sûr, tout à fait. On va rester sur cette jolie conclusion et vous donner rendez-vous le mois prochain. Au revoir, chers auditeurs et auditrices. Et merci à Yann pour la technique.
C'était La Bible Parfum de Scandale, à retrouver en podcast, en écoute à la demande ou téléchargement gratuit sur radiofmplus.org.